protect myself from dirty lies. Now that I'm Asshole in Disguise de Polylogue from Scylla pour terminer ce plat de résistance. Dans un instant, ce sera le guide du Bordeaux colonial à 14h. Plateforme FM, 15h Bordeaux Blues et 17h Acétone, l'actu décapé par les chômeurs et précaires. Tout de suite donc à 13h, c'est le guide du Bordeaux colonial qui revient sur l'histoire des migrations. Bonne journée à l'écoute de la Clé des Ondes.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la Clé des Ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez, en podcast.
Bonjour à tous et tous, chères auditrices et auditeurs, et bienvenue pour notre émission Le Guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes. Pour cette émission, nous allons vous diffuser deux tables rondes qui sont issues d'une rencontre organisée le 15 mars par Envita à l'auditorium du Musée d'Aquitaine de Bordeaux. Envita signifie Association nationale des villes et territoires accueillants. Créée le 26 septembre 2018 par 9 villes fondatrices, Envita rassemble des collectivités territoriales, des groupements de collectivités, mais aussi des élus, qui œuvrent pour les politiques d'accueil inconditionnelles, incluant les publics exilés, et surtout pour l'hospitalité sur leur territoire. Envita regroupe plus de 80 collectivités territoriales et Bordeaux, la mairie de Bordeaux, assure désormais la vice-présidence de Envita. C'est un espace de mobilisation politique. Envita met en place une stratégie de plaidoyer commune pour défendre l'accueil digne sur nos territoires et une meilleure participation des collectivités territoriales aux politiques nationales sur l'accueil. Et c'est dans ce cadre de construire des discours humanistes et politiques communs que la ville de Bordeaux, qui assure désormais la vice-présidence de l'association, a co-organisé avec Envita une journée de rencontre le 15 mars à Bordeaux. C'était la première édition des territoires accueillants du Grand Ouest. La journée s'est organisée en deux temps. Une matinée qui était destinée à l'échange entre les élus et les agents, qui portait sur « Personnes sans papier, habitants de nos territoires au droit incomplet ». Ces échanges ont été suivis d'une conférence de presse où les représentants du territoire ont alerté sur la détérioration des conditions de vie et d'accueil des personnes exilées sur leur territoire. Un communiqué de presse des 18 territoires que vous trouverez dans l'article de ces podcasts sur le site de la Clé des Ondes. L'après-midi est organisée une visite au musée d'Aquitaine, suivie de deux tables rondes au sein de l'auditorium du musée. Le maire Pierre Urmic a introduit les échanges. La première rencontre était modérée par Sandra Merlet, moi-même, en tant que consultante historique et surtout représentante du guide du Bordeaux colonial. Et j'ai eu le plaisir donc de modérer une table ronde qui portait sur l'histoire des migrations et son impact sur les villes d'aujourd'hui. Puis, la seconde rencontre a porté sur les façons dont l'action sociale se confronte à la complexité du droit des étrangers, et cette table était modérée par Madame Catherine Gauthier, professeure en droit public et vice-présidente de l'Université de Bordeaux. Et pour finaliser cette journée d'échange, le collectif Anticra a pu intervenir pour dénoncer l'installation d'un nouveau centre de rétention administratif à Mérignac, et je partagerai également dans les articles de ces deux podcasts le lien pour suivre les causes-actions du collectif Anticra. Et donc c'est une émission du Guide du Bordeaux colonial en deux temps, un peu spéciale, car nous allons diffuser de manière intégrale les deux tables rondes organisées par Envita, dans le cadre de la journée qui s'appelait, je rappelle, Territoire accueillant du Grand Ouest, et co-organisée par la mairie de Bordeaux. Ces deux échanges, nous allons les diffuser en direct, mais vous pourrez aussi bien sûr les retrouver sur la plateforme de podcast laclédesondes.fr. Donc, cette rencontre territoire accueillant du Grand Ouest organisée par Envita et la mairie de Bordeaux était bien sûr une rencontre auquel le guide du Bordeaux colonial était présent, mais aussi surtout intervenant. Je vous souhaite une très bonne écoute de ces deux tables rondes organisées par Envita à Bordeaux le 15 mars.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes.
Première table ronde, comment l'histoire des migrations façonne nos villes d'aujourd'hui. Pour ce premier échange organisé par la ville de Bordeaux et Envita, était invité Monsieur Alounsi, président du COSIM Nouvelle-Aquitaine et fondateur de ACAFI, Madame Marie Vitou, adjointe à la maire de Nantes en charge de l'ESS et de la mixité-diversité dans l'emploi, Monsieur Yann Leformal, président du RAMI, et également Bénédicte Méchalon, géographe au CNRS à l'Institut Convergence Migration. Donc cette première table ronde portant sur l'histoire des migrations et son impact dans le façonnement des villes d'aujourd'hui était donc modérée par Sandra Merlet, consultante historique, médiatrice culturelle et co-autrice du Guide du Bordeaux colonial.
À tous et à toutes, je suis Harmonie Le Cerf-Meunier, adjointe au maire de Bordeaux en charge de l'accès aux droits, des solidarités et des seniors. Et la ville de Bordeaux a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui les journées Grand Ouest de l'ANVITA, Association nationale des territoires et villes accueillantes, qui est une association qui regroupe des élus et des collectivités. Donc on reçoit toute la partie Ouest pour discuter des questions de migration, d'accueil des personnes migrantes, d'accès aux droits des personnes migrantes. Donc nous avons travaillé ensemble ce matin avec les collectivités, les élus et les techniciens et techniciennes, et nous avons donné une conférence de presse lançant une alerte au gouvernement sur l'aggravation des situations des personnes migrantes sur nos territoires et leurs difficultés d'accès aux droits. S'en suivra une lettre au gouvernement qui reprendra un peu tout ce que nous pouvons voir et ce que nous gérons au quotidien dans nos collectivités. Donc nous allons passer cet après-midi sur les tables rondes, et je vous remercie d'être ici pour deux tables rondes sur deux thématiques différentes, une sur les questions mémorielles et une sur les questions d'accompagnement social des personnes migrantes. Un grand merci aussi aux équipes de l'ANVITA, cette association à laquelle nous avons adhéré depuis 2021 et de laquelle nous sommes très heureux à Bordeaux d'être vice-président. Merci donc aux co-directrices et aux chargés de mission d'avoir préparer cette journée avec les services de la ville de Bordeaux et du cabinet du maire de Bordeaux. Le maire va nous rejoindre pour dire un mot, mais c'est un petit peu décalé. Ce matin, il y avait l'élection de la nouvelle présidente de la métropole suite à la démission du président de la métropole. Donc il y a eu un conseil métropolitain qui a été calé en urgence pour aujourd'hui, ce qui fait qu'il est un petit peu en retard par rapport au planning.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux et nombreuses cet après-midi pour les deux tables rondes. Comme vous avez pu le voir à l'entrée, on a une petite feuille d'émargement. Donc n'hésitez pas à aller mettre vos noms, prénoms, si voilà, vous voulez être recontacté, avoir toutes les informations de la journée, notamment les comptes rendus des échanges. Et également, nous avons le plaisir de pouvoir être enregistrés sur la clé des ondes. Donc voilà, il y a aussi également la question de bien donner votre accord pour le droit à l'image et au son. Également, du coup, cet après-midi, on a un public qui est très varié, très de différents profils. Donc, on voulait un petit peu vous proposer de jouer le jeu de l'exercice, de dire un petit peu d'où vous êtes. Et donc, voilà, en levant la main, qu'on puisse repérer visuellement où sont les collectivités, si les collectivités, agents et élus, veulent bien lever la main. Super. Alors, on a aussi des parlementaires qui sont avec nous. Un petit peu moins nombreux, mais vous êtes là devant. On sait que les temps de l'après-midi ont aussi beaucoup circulé dans les réseaux associatifs du coup de Bordeaux, et on est très ravis que vous soyez là cet après-midi. Si du coup les associations et acteurs de la société civile veulent bien également lever la main. Génial. Et du coup, éventuellement, s'il y a d'autres personnes, des citoyens curieux ou intéressés par la thématique, voilà, c'est aussi possible. Mais je pense que vous êtes beaucoup d'associations. Et également, oui, le monde de la recherche, on a plusieurs chercheurs et chercheuses voilà, qui sont au fond de la salle. Super. Bon, bah, merci. Bon, bah, sans plus attendre, du coup, on va pouvoir commencer la première table ronde qui, comme le disait donc Harmonie, sera sur les enjeux mémoriels. Voilà, comment l'histoire des migrations façonne nos villes d'aujourd'hui. Et donc, j'appelle nos intervenants et notre modératrice à nous rejoindre.
Alors bonjour à tous, bonjour tout le monde. Donc je voulais tout d'abord remercier ANVITA et la municipalité de Bordeaux d'organiser cette journée de rencontre ici à l'auditorium du musée d'Aquitaine sur cette thématique des territoires accueillants qui vont se concentrer pour cette première partie sur les héritages des migrations dans l'Ouest. Et donc notre première table ronde va porter sur comment l'histoire des migrations va façonner nos villes d'aujourd'hui. Dans ce cadre, je voulais donc remercier les quatre intervenants d'avoir accepté cette invitation pour échanger sur les questions de l'histoire des immigrations et de son héritage. Tout d'abord, Madame Marie Vitou, donc vous êtes écologiste à Nantes, vous êtes adjointe à la mairie de Nantes en charge de l'économie sociale et solidaire, et vous êtes également adjointe du quartier de Nantes-Sud. Madame Vitou, vous êtes militante et vous avez des engagements, notamment sur le sujet du droit au logement, de l'accueil inconditionnel, et vous mentionnez être mobilisé dans le cadre d'un collectif qui s'oppose à l'installation d'un centre de rétention administrative à Nantes. À ma droite, donc, j'ai Madame Bénédicte Michalon. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et au laboratoire Passage situé à Pessac. Vous êtes également géographe, spécialiste de l'étude des migrations et de l'enfermement des étrangers. Et votre spécialisation est l'accueil des exilés en milieu rural et aussi l'impact des politiques migratoires sur les cheminots. Et il y a également Monsieur Yann Leformal, donc vous êtes président du RAMI, qui est le réseau des acteurs de l'histoire et de la mémoire de l'immigration, et vous assurez des formations laïcité et valeurs de la République dans le cadre du dispositif Cégette. Monsieur Leformal, vous êtes également auparavant directeur régional du FACILD et de l'ACCÉ. Et enfin, à ma gauche, tout à ma gauche, Monsieur Alioumsi, donc vous êtes militant associatif, universitaire, et également président du COSIM Nouvelle-Aquitaine, qui est un collectif fondé en 2012 qui réunit une centaine d'organisations de solidarité internationale issues des migrations et des diasporas solidaires. Et Monsieur Si, vous êtes aussi président de l'ACAFI Aquitaine Afrique Initiative, qui est une association pilotant plusieurs projets locaux et internationaux au service du développement et du dialogue interculturel. Tous les quatre, vous avez tous des profils divers, vous avez des parcours qui s'impliquent dans quatre réalités et territoires différents, tels que la ville de Nantes et sa métropole, Bordeaux et le Sud-Ouest, l'espace rural, mais aussi les diasporas africaines, notamment dans le milieu étudiant. Pour faire une courte introduction, j'ai oublié de me présenter, donc moi-même je suis salariée à l'association ALIF, qui est une association d'accès aux droits des étrangers, je fais le contrat d'intégration républicain, mais je suis modératrice ici en tant que membre du collectif du Guide du Bordeaux colonial et aussi de la Clé des Ondes, et c'est dans cette spécialisation sur les questions mémorielles dans l'espace public que je vais intervenir aujourd'hui, et donc je suis heureuse qu'avec Envita, il y ait mon travail salarié d'intégration des personnes migrantes et aussi mon travail plus militant sur la question mémorial qui se rejoignent. Et donc, pour introduire rapidement, je voulais définir tout d'abord le terme de migration, car c'est un terme qu'on utilise beaucoup, qui semble flou, parce qu'il regroupe en fait beaucoup de réalités différentes, et la réalité politique a fortement évolué, notamment depuis une dizaine d'années, sur la question des migrations. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un migrant ? Migrant, c'est un terme qui n'est pas réellement défini dans le droit international, dont finalement ça va désigner toute personne qui quitte son lieu de résidence pour aller s'établir de manière temporaire ou permanente dans une autre région à l'intérieur d'un même pays ou dans un autre pays. Donc on pourrait dire que moi-même, alors je suis une migrante, parce que je suis originaire du Maine-et-Loire et je me suis installée ici en Aquitaine. Je pense que dans le cadre de cet échange, nous allons surtout nous centrer sur la question des immigrations, qui là est défini par le Haut Conseil à l'intégration comme étant des personnes nées étrangères dans un pays étranger et résidant en France. Cette définition est une bascule faite dans les années 1980 car elle va mettre l'importance sur la question de l'origine et non pas du statut juridique. Or, cette question des origines de la nationalité n'est pas une réalité fondamentale jusqu'à la Troisième République et notamment jusqu'au XXe siècle. C'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, l'État, vu ici comme une institution administrative, va s'attacher à ranger, à définir les catégories des personnes, des individus sur son territoire. Il faut comprendre que l'opposition entre nationaux et étrangers est très récente dans la pensée politique, et la notion même d'appartenance à un État, à une nation, est également récente, va surtout démarrer à la fin du XIXe siècle. Pour un peu définir l'histoire des migrations, je vais prendre l'exemple de Bordeaux, mais également la ville de Nantes peut ressembler pour son caractère portuaire maritime, car Bordeaux, avec son activité coloniale qui va s'accentuer au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe et au XXe siècle, va devenir un réel bassin de migration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'activité portuaire, l'activité coloniale, ne concentre pas que les villes, mais concentre finalement tout l'arrière-pays, où en fait toute l'économie de l'arrière-pays va prendre place pour développer l'activité coloniale, mais aussi vous allez avoir les premières grandes migrations régionales, finalement des petites mains, qui venaient travailler dans les industries portuaires, mais aussi dans les métiers du service. C'est-à-dire que jusqu'à la Révolution française, on ne s'identifiait pas de manière nationale, mais on va s'identifier vis-à-vis de sa région. On est du Poitou, on est de l'Aquitaine, on est basque, mais on ne fait pas partie de la nation française. Et c'est là le basculement majeur de la Révolution française, c'est qu'elle va inaugurer le siècle des États-nations, l'État-nation fondée sur la souveraineté du peuple, et donc qui va créer le clivage fondamental entre le national et l'étranger. L'État-nation, c'est un nouveau concept politique qui sera surtout accéléré à la Troisième République, qui définit que dans un même État, il y a un même peuple, donc on efface un petit peu les particularismes régionaux. Vous avez une même langue, ça, ce sera l'importance de l'école dite républicaine pour mettre en place le français. Vous allez avoir aussi une même histoire, donc c'est la fondation des grands mythes nationaux qui seront aussi diffusés par les écoles. Et aussi, c'est là qu'arrive la question de la frontière. Une même frontière, qu'elle est géographique ou politique, qui va définir du coup la création de l'autre, qui va définir l'étranger. Et le second basculement majeur au XIXe siècle est bien sûr la révolution industrielle, qui va s'accompagner de progrès techniques, notamment dans les mobilités, mais aussi un fort besoin de main-d'œuvre, car les grandes usines vont donc appeler des migrations européennes dans un premier temps, à venir travailler dans les industries françaises. Car la France, et c'est une de ses particularités, est une terre d'émigration. On a besoin de main-d'œuvre pour faire participer l'économie. Donc cette première émigration sera surtout européenne, notamment italienne, espagnole, portugaise, polonaise, allemande, russe. Et il faut bien comprendre qu'on ne les lie pas selon leur nationalité, mais selon leur classe. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, tout était rangé en classe sociale, la classe politique, la classe laborieuse, la classe des élites. Et c'était normal d'avoir un internationalisme au niveau de ces classes. Ce n'était pas du tout les nationalités qui définissaient les étrangers. Et le basculement, ça va être l'institutionnalisation de la Troisième République. C'est dans un contexte d'hypernationalisme, notamment contre l'Allemagne, mais aussi une montée réelle de l'antisémitisme, des courants xénophobes, des sciences telles que le darwinisme social, de la racialisation et de l'ethnisation de la société. Et donc, en 1889, va être mis en place le premier code de la nationalité pour déterminer la question de la naturalisation des enfants nés en France de parents étrangers. Pourquoi on a voulu naturaliser? C'est qu'il y avait tout d'abord la question du service militaire, donc qui entraînait une concurrence entre les ouvriers français et les ouvriers étrangers qui n'étaient pas appelés sous les drapeaux. Mais il y avait aussi la question sociale et le début de la méfiance de l'étranger dans un contexte de guerre qui s'annonçait au début du XXe siècle. Et de plus, l'administration et la bureaucratisation de la Troisième République va mettre en place les premiers taxes de séjour, puis les cartes de séjour et finalement les premiers titres de séjour à l'aube du XXe siècle. Et donc, on peut voir que trois dynamiques vont se créer à l'aube du XXe siècle dans lesquelles on peut toujours se reconnaître et qui ont un impact profond sur l'organisation de l'État et les perceptions de ceux qu'on appelle désormais les immigrés. Tout d'abord, une interdépendance entre les États et donc une intensification des relations internationales avec aussi une montée des risques de conflit. Donc, cette montée de conflit va être justifiée pour recenser les étrangers et donc aussi créer une forme de méfiance. Par l'administration, on va créer donc une légalité qui, en conséquence, va former une possible illégalité. C'est là que va arriver la création de l'immigration clandestine, mais aussi la différence entre les bons et les mauvais étrangers, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas. Et enfin, selon l'État, va arriver aussi la question de l'accentuation de la demande sociale, avec en temps de crise des demandes de fermeture des marchés du travail, et donc réduire le droit des étrangers a été utilisé au début du XXe siècle comme une tactique payante au niveau électoral. Et donc, on peut voir que, par l'évolution administrative et institutionnelle du statut des étrangers, mais aussi de la perception du national et du non-national, ceci se heurte à une vision plus humaniste de l'importance de la migration dans le façonnement des territoires urbains et ruraux, car les migrants, qu'ils soient régionaux, européens ou internationaux, ont contribué à la fondation de nos espaces d'aujourd'hui, des espaces géographiques, culturels et patrimoniaux. Et donc ce sera la première table ronde de cet après-midi. Et donc ma question aux intervenants, c'est comment, à partir du XXe siècle, les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, mais également l'organisation des diasporas, ont-ils été modifiés, créés par les différentes migrations ?
Ouais, je vais commencer parce que c'est très simple, effectivement, 5 minutes de résumer l'histoire de l'immigration au XXe siècle dans l'Ouest. Donc ça, je m'en occupe. Non, la conviction que l'on a en tout cas au RAMI, c'est que l'histoire de l'immigration, c'est d'abord l'histoire de France, d'accord ? C'est l'histoire de France, c'est aussi l'histoire de l'Europe, c'est aussi l'histoire du monde. Et c'est à partir de là qu'on peut essayer de construire quelque chose de l'ordre d'une périodisation de ces...